Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible, qui propose aujourd'hui de s'inspirer d'expériences réalisables pour rendre le monde meilleur. Le 22 novembre 2014, Cyril Dion est venu nous rencontrer à l'Esperluette, la librairie de Chartres. Cyril Dion est le cofondateur, avec Pierre Rabhi, de l'ONG Colibri. Cet infatigable humaniste et protecteur de la nature est également directeur de rédaction du magazine Kaizen, coproducteur avec Colibri du film de Colin Serrault « Solution locale pour un désordre global » et créateur avec Actes Sud de la collection « Domaine du possible » qui a fortement inspiré le nom de cette émission. Actuellement, il réalise un film qui s'intitule « Demain » avec Mélanie Laurent. Tous deux ont parcouru la planète afin de dénicher des solutions innovantes face aux crises écologiques et économiques qui touchent notre société. Cyril Dion revient sur les raisons qui l'ont poussé à réaliser ce film et nous décrit en deuxième partie un nouveau modèle de société. Pour l'heure, écoutons la voix de Cyril Dion sur le teaser du film « Demain ».
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
C'est un film que j'ai moi commencé à écrire il y a 4 ans, qui s'appelle « Demain ». En fait, moi, ça fait des années que je suis un peu... que j'ai une forme de frustration de me dire on n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut changer, qu'il faut passer d'un monde tel qu'il est aujourd'hui, avec des énergies fossiles, dont l'idéologie et la croissance économique infinie, etc., à un autre modèle de société. Mais on montre jamais à quoi ce modèle de société pourrait ressembler. Et j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile de quitter ses repères, de quitter le monde qu'on connaît, pour quelque chose de totalement inconnu. Et que c'est déjà difficile de changer dans l'absolu, donc si en plus c'est pour se jeter dans le vide et dans l'inconnu, il y a assez peu de gens qui vont le faire. Donc on a essayé de rassembler les pièces du puzzle de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, c'est-à-dire des meilleures solutions qu'on connaît dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'habitat, dans l'économie, dans l'éducation, dans la démocratie, et de voir si en assemblant ces pièces, ça commençait à faire un monde, une vision de société, une logique de société qui serait inspirante pour un grand nombre de personnes. Il y a un livre qui nous a beaucoup inspiré, beaucoup frappé, c'est un essai de Nancy Houston qui s'appelle « L'espèce fabulatrice ». Finalement, la conclusion à laquelle elle arrive, c'est que nous sommes des récits ambulants et que le récit ou la fiction, c'est notre façon d'être au monde. Elle dit qu'on est une des seules, si ce n'est la seule espèce qui a conscience qu'elle va mourir, et que ça, un début, un déroulement et une fin, c'est un récit. Ce récit, enfin le récit, est notre façon d'appréhender la réalité. Et que donc, le récit et la fiction est peut-être ce qu'il y a de plus puissant pour nous faire nous engager dans une direction ou dans une autre. Donc on a cherché à comprendre quel était le récit qui nous avait amené jusqu'ici. Donc ce récit de la croissance économique, ce récit du progrès matériel, ce récit du consumérisme, ce récit de la technologie qui allait résoudre toutes nos difficultés et nous apporter le bonheur. Et on a essayé de voir quelles pouvaient être les bases d'un nouveau récit, justement d'une nouvelle histoire qu'on pourrait raconter au plus de personnes possible avec ce film. Et c'est ça qui nous passionne, en fait. C'est de voir qu'à chaque fois, quand on va dans un endroit où il y a une initiative formidable qui réinvente, par exemple, l'agriculture ou l'économie, ce qu'on y trouve, fondamentalement, c'est un récit qui est relativement proche, à la fois dans les conclusions que les gens tirent du monde tel qu'il est aujourd'hui et à la fois dans ce qu'ils ont envie de construire pour le futur. Ça veut dire qu'on est en train de vivre une époque où, justement, on est en train de changer de récit, très fort, collectivement. Et que je crois que notre rôle à tous, qui écrivons des livres, qui sommes dans les médias, qui faisons un métier X ou Y, c'est justement de participer à développer ce ou ces nouveaux récits de façon extrêmement puissante. Et que ça a certainement beaucoup plus de chances de nous faire changer de trajectoire que simplement expliquer que c'est la sixième extinction de masse des espèces, que c'est le dérèglement climatique, que on a érodé la moitié des sols, etc., etc. Ce qui sont des informations qu'on donne depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois, mais qui ne nous parviennent pas, qui ne nous percutent pas, parce que je pense qu'on est des êtres profondément irrationnels, et que c'est un peu le « nous ne croyons pas ce que nous savons » parce qu'on ne le vit pas de façon extrêmement profonde et quotidienne. On ne voit pas les espèces disparaître dans nos vies urbaines, on ne voit pas le dérèglement climatique, à part à quelques moments d'inondations, de précipitations un peu exacerbées. Donc, finalement, les histoires qu'on se raconte ont certainement plus de force que les faits. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart.
Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule.
Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
Je m'occupe d'une collection de livres qui s'appelle « Le domaine du possible » chez Actes Sud. Et on vient notamment de sortir un livre qui s'appelle « Permaculture » qui raconte une des expériences qu'on a été filmé dans « Demain ». Qui est pour moi une des expériences les plus extraordinaires pour réinventer l'agriculture. Ce sont des gens qui, pour en dire juste deux mots, arrivent à produire à peu près 10 fois plus sur leur surface. Donc ils sont maraîchers, hein, ils font des fruits et des légumes. Donc ils ont une productivité qui est 10 fois plus élevée, sans aucune mécanisation, sans aucun apport ni engrais, ni pesticides, ni fongicides, ni rien du tout. Et qui viennent de valider ces rendements avec une étude de 3 ans avec l'INRA et AgroParisTech. Et le principe de la permaculture, c'est au lieu d'essayer d'aller contre la nature, on va essayer de regarder comment la nature fonctionne et s'inspirer de la nature pour organiser notre production. Donc, un maximum de diversité. En gros, les trois piliers de leur démarche, c'est soigner le sol amoureusement, donc s'occuper beaucoup du sol. Ça veut dire travailler des plus petites parcelles avec plus de main-d'œuvre, associer beaucoup les cultures, travailler avec des outils qui leur permettent de densifier énormément. Donc, par exemple, dans le film, ils racontent que grâce à un semoir de précision qu'ils ont, qui a été inventé par un maraîcher américain, ils arrivent à semer 26 rangs de petits légumes sur une planche de 80 cm, là où un tracteur mettrait que 3 rangs. avec des techniques qui leur permettent de commencer, même en hiver, notamment des techniques qu'ils appellent des couches chaudes, où ils mettent du fumier avec de la paille sous la terre, ce qui leur permet d'avoir une terre qui est déjà à 25 degrés au mois de janvier, et de commencer à planter au mois de janvier, et dès fin janvier, de commencer à récolter. Et donc c'est une façon de complètement renverser la logique du truc. C'est-à-dire, au lieu de se dire... parce qu'une des choses que j'ai appris dans le film aussi, c'est que 75% de la nourriture qu'on consomme vient de fermes qui font moins de 2 hectares. Je parle dans le monde, là. Alors qu'on a une idée qui est que pour se nourrir, on a besoin d'avoir des très grandes exploitations avec beaucoup de mécanisation. Et effectivement, pour pouvoir produire sur ces exploitations où il n'y a que de la monoculture, où c'est fabriqué pour être fait avec du tracteur, là, on a besoin de produits. On a besoin de pétrole, et puis on a besoin d'engrais, on a besoin de pesticides, parce que les terres ne produisent quasiment plus parce que la monoculture les a épuisées, donc il faut mettre de l'engrais pour que ça produise. Le fait d'avoir des monocultures rend les plantes beaucoup plus fragiles, donc elles développent beaucoup plus de maladies, encore plus parce que le sol est très pauvre, donc il faut mettre des produits pour soigner les plantes et pour lutter contre les ravageurs. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Si on arrive, grâce à l'agroécologie ou à la permaculture, à multiplier les rendements ne serait-ce que par 2 dans toutes ces exploitations qui sont aujourd'hui les exploitations qui nourrissent la plupart de l'humanité, on a résolu notre problème. Et donc là aussi, c'est vraiment une autre histoire qu'on peut se raconter, qui est de se dire, ce sont des petites fermes avec beaucoup de main-d'œuvre qui peuvent se nicher un peu partout, c'est-à-dire se nicher dans les villes, dans la périphérie des villes, dans les milieux ruraux qui sont à proximité des villes ou de centres de population plus petits, de villages, qui seront les moyens, le moyen à la fois de développer une partie de l'économie, de créer de l'emploi et de nourrir la population. Il y a des études qui montrent aujourd'hui, par exemple, que si la plupart des Français achetaient leur nourriture localement, ça créerait 600 000 emplois. On a une autre étude qu'on cite aussi dans le film qui montre que si on s'engageait dans la transition énergétique, vraiment, c'est-à-dire si on lâchait le nucléaire et les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et d'un bouquet d'énergies renouvelables avec plein d'énergies différentes, on créerait 684 000 emplois. C'est une étude du CNRS. Ça fait déjà 1,3 million et à côté de ça, on entend à longueur de journée les politiques dire qu'ils vont inverser la courbe du chômage et puis on n'en voit jamais la couleur. Parce qu'on reste dans la même histoire, et qu'on reste dans le même schéma, dans la même logique, qui, elle, est à bout de souffle et ne nous permettra pas, de toute façon, ni de relancer cette fichue croissance, ni de créer des emplois. Donc c'est vraiment extraordinaire, justement, d'avoir la preuve, à la fois par l'image et par les expériences de toutes ces personnes-là, qu'on est déjà capable de faire autrement et que ça fonctionne. They've got the whole world in their hands. 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 Voilà pour le film Demain, qui nous invite à nous montrer plus créatifs et solidaires face aux enjeux de notre planète. Il sortira en salle fin 2015. Je remercie chaleureusement Monsieur Lostis, responsable de la librairie L'Esperluette, qui a initié cette rencontre avec Cyril Dion dans des conditions exceptionnelles. Merci également à Cyril, qui m'a laissé librement enregistrer cette rencontre, riche d'idées et d'authenticité. On se retrouve le mois prochain, à nouveau aux côtés de Cyril Dion, qui nous parlera cette fois-ci de poésie. À très bientôt sur Radio Grand Ciel. Trying to do it right.